Aventure du pétrole. Le temps emporte tout, l'énergie comme le reste. Virgile. Ans d'histoire. Jamais dans son histoire, le pétrole n'aura autant mérité qu'aujourd'hui de s'appeler de l'or noir. À près de $60 le baril, il coûte 20 fois plus cher qu'il y a 40 ans, quand il était déjà la première source d'énergie du monde. Découvert au milieu du 19e siècle en Amérique, où William Drake creusait le premier puits de pétrole en Pennsylvanie, il n'était encore qu'une source d'énergie marginale, jusqu'à ce que quelques mécaniciens de génie découvrent un jour le moyen de remplacer les moteurs à vapeur et à charbon par un mode de propulsion révolutionnaire. Ils s'appelaient Gottlieb Daimler, Carl Benz, Armand Peugeot ou Henry Ford, et ils allaient faire en même temps la fortune des deux industries les plus puissantes du XXe siècle, l'automobile et le pétrole.
Qu'est-ce que c'est ?
Un moteur à essence, un moteur à combustion interne.
Oh, c'est magnifique, Henri.
Prends ça et branche-le sur la prise. On appelle cette pièce une bougie. Il faut que je la fixe là-dessus. J'ai oublié l'essence, attends. Attends, voilà l'essence. Verse doucement. Ça
marche !
On a réussi, ma belle.
Jean-Pierre Boreneau, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était Henry Ford dans un téléfilm découvrant le moteur à essence juste avant le XXe siècle qui a été à la fois le siècle de l'automobile et du pétrole dans un remarquable documentaire en quatre parties que vous avez réalisé pour la chaîne Histoire. Ça s'appelle l'épopée du pétrole. Vous rappelez Jean-Pierre...
L'épopée de l'or noir.
Vous rappelez justement que les deux sont inséparables, l'automobile et le pétrole, et que même si on a découvert le pétrole au milieu du 19e siècle, ce n'est qu'avec l'automobile qu'il a pris l'importance qu'il a. Je voudrais que vous nous rappeliez quand même quand est-ce qu'on a découvert, utilisé pour la première fois du pétrole. Je crois que c'est dans l'Antiquité. On dit que Noé avait même calfaté son arche avec du bitume.
Oui, c'est ça. Il y a les feux éternels, il y a en plus toutes les armes de guerre qu'on a faites à partir avec du pétrole et mélangé à du soufre. Donc c'est une très très vieille histoire, mais jusqu'au milieu du 19e siècle, en fait, les hommes ont consommé quelques gouttes des réserves immenses de pétrole qui existaient dans...
Parce que même quand Henry Drake découvre son puits, en fait, ça, c'est une énergie encore tout à fait secondaire. Il y a les voitures, il y a des voitures à vapeur qui utilisent même parfois un peu de gaz. Le pétrole, c'est pas très important. Il y a quand même des usages étonnants. À quoi sert-il avant l'automobile ?
Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, d'ailleurs, le plus grand trust automobile, pétrolier du monde, qui était à la Standard Oil de Rockefeller, a été inventé effectivement 10 ans après la découverte de Drake, aux États-Unis, parce que il y avait déjà une révolution de l'éclairage domestique avec le fameux pétrole lampant, la lampe à pétrole de nos ancêtres, et qui a pris une importance mondiale.
Et c'était uniquement pour ça,
les lubrifiants industriels. La révolution industrielle explosait littéralement, et en particulier aux États-Unis, et les lubrifiants étaient en fait de l'huile de baleine. Et en fait, indirectement, le pétrole, par justement ce qu'on en faisait par raffinage, c'est-à-dire un lubrifiant industriel, le pétrole a sauvé involontairement les baleines d'une disparition certaine.
Ouais, c'est ce que vous rappelez effectivement dans votre documentaire, Jean-Pierre Boreneau. Alors, vous avez évoqué la première grande compagnie, c'était Rockefeller. Oui. Tout de suite, effectivement, apparaît la Standard Oil de Rockefeller qui intègre l'ensemble de la filière du pétrole, de l'extraction jusqu'à la vente à la pompe. Et cette grande compagnie qui a fait de Rockefeller la plus grande fortune d'Amérique, elle éclate en 1911. Parce qu'il y a les lois antitrust et il y a plusieurs compagnies qui vont naître sur ces ruines. Il y a la Standard Oil du New Jersey, de Californie, la Mobil, Gulf Oil, Texaco. quelques compagnies également extra-américaines, enfin européennes. Hein, il y a, je crois que ça s'appelait au début, il y a la BP qui s'appelait au début l'Anglo-Persienne.
Anglo-Persienne Company.
Et puis il y avait
et puis, Shell.
Shell.
Et comme par hasard d'ailleurs, faut signaler qu'aujourd'hui, parmi les premières grandes compagnies, les majors, super majors d'ailleurs maintenant, puisque ce sont des consortiums, sont issus de ces premières compagnies pétrolières. C'est-à-dire que, en fait, ça n'a pas beaucoup changé depuis cette époque-là au niveau de la puissance des majors.
Alors ces compagnies, au tout début du XXe siècle, se sont livrées une guerre terrible, jusqu'à ce qu'elles finissent par s'entendre. Ça devient un cartel, hein, ce sont les accords, vous le rappelez, d'Aknakari, qui leur permettent, au fond, de contrôler le marché en fixant les prix, en fixant les redevances aussi aux pays producteurs, je suppose.
Pendant des décennies, ils vont effectivement pouvoir contrôler, disons, c'est toujours des, ils sont toujours des chiens et chats, mais en même temps, ils ont quand même des modus vivendi qui leur permettent de se partager l'énorme gâteau sans trop de dégâts pour elle.
Et en étant maintenant des prix assez élevés à la pompe, mais en réduisant au minimum, évidemment, les royalties qu'ils versent aux pays producteurs qui se sentent floués, exploités, si bien qu'en 1938, au Mexique, le président Lázaro Cárdenas fait de son pays le premier à nationaliser son pétrole.
Le président de Mexico is going to speak. Por causa de utilidad pública y a favor de la nación,
pour la cause de l'intérêt public et de la nation, nous déclarons l'expropriation des bâtiments, des oléoducs, des raffineries et des moyens de transport de toutes les majors.
Et c'était une archive extraite de votre documentaire, Jean-Pierre Boronneau, l'épopée de l'or noir, le président Cárdenas nationalisant les installations de 17 compagnies anglo-américaines qui exploitaient le pétrole mexicain. Le Mexique était à l'époque le deuxième producteur mondial. On parlait pas beaucoup du pétrole du Moyen-Orient. Il va le payer cher, parce que les Américains vont se tourner.
Très cher, parce que les grandes compagnies, en fait, il y a beaucoup de pétrole à l'époque, et entre autres le Venezuela est riche en pétrole, donc ils vont boycotter le pétrole vénézuélien. En plus, tous les techniciens étrangers qui étaient au Mexique vont partir, et le Mexique va mettre 20 ans à peu près à se remettre de cette hardiesse, disons, qui n'a pas été bien supportée évidemment par les majors.
Et les compagnies iront chercher du pétrole au Venezuela quand elles ne le trouvent pas encore aux États-Unis, et le Venezuela qui devient le deuxième producteur mondial. D'ailleurs, quand on touche à leurs intérêts, les compagnies ne badinent pas
non plus.
Citez aussi le cas de Mossadegh en Iran en 1953.
Mossadegh, ça a été une catastrophe aussi épouvantable. L'ancêtre de British Petroleum, donc qui s'appelait à l'époque Anglo-Persian Oil Company, a été brutalement nationalisé par Mossadegh, et il s'est passé la même chose, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a eu un boycott mondial du pétrole iranien, ce qui a d'ailleurs permis au Shah d'Iran, d'une part, de renforcer son pouvoir. Après un bref exil, il est revenu au moment de la chute de Mossadegh, laquelle chute d'ailleurs a été aidée par à la fois les services secrets anglais et la CIA, et c'est l'arrivée en force d'ailleurs des États-Unis en Iran, qui jusqu'à la chute du Shah vont effectivement jouer un rôle majeur dans la politique et l'économie iranienne.
Il y a d'autres brèches dans cette toute puissance de ce qu'on appelle les majors, justement. Jean-Pierre Boronneau, vous rappelez la naissance de certaines compagnies nationales qui veulent être indépendantes, dont les pays veulent être indépendantes. Il y a la CFP française en 1928, l'ENI italienne aussi.
Absolument. Au lendemain de la guerre de 14, le gouvernement français prend conscience que effectivement le pétrole est une ressource absolument indispensable, aussi bien dans la paix que dans la guerre. Et donc l'État, qui est déjà consciente que les grandes compagnies, disons, sont toutes puissantes et n'ont pas de contre-pouvoir, nécessite effectivement la création d'un organisme d'État. Et grâce, disons, à ce qui s'est passé à partir des années 20, c'est-à-dire la création de mandats au Moyen-Orient, Moyen-Orient, la France est le Liban et la Syrie, et l'Angleterre, la Palestine et l'Irak. Et là, il va y avoir effectivement la France va faire une entrée avec les Anglais et les Américains, c'est-à-dire les Alliés vont se partager le futur, d'ailleurs, car à l'époque, il n'y a pas encore de pétrole, enfin, on n'a pas encore découvert de pétrole en Irak, mais ce consortium, disons, qui réunit donc quatre pays alliés de la guerre de 14-18, vont se partager le gâteau irakien.
Dans une région où la production augmente, notamment avec l'apparition du pétrole du Golfe, hein, qui va devenir, oui. qu'on découvre, qui
on
va devenir important.
On commence à découvrir, ouais.
Et puis alors surtout, pays pétroliers du Golfe, qui vont se regrouper pour la première fois, parce que jusque-là, le marché est toujours contrôlé par les grandes compagnies, quelles qu'elles soient, qui vont se regrouper en 60 au sein de l'OPEP, en 1960, c'est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Et à une époque, nous sommes après la Deuxième Guerre mondiale, où la consommation, vous le dites, explose
littéralement. Absolument. C'est d'un seul coup, le pétrole qui avait été, bien entendu, avant la guerre, une source importante de progrès, voilà, en particulier dans les pays industriels, va devenir littéralement la première source d'énergie et détrôner, disons, le charbon qui, jusque-là, disons, se partageait le pouvoir avec le pétrole. Là, d'un seul coup, c'est le pétrole qui devient très important. Bien entendu, pour faire rouler les voitures et disons l'industrie automobile va exploser littéralement et on va même faire de l'électricité, on fait de tout avec du pétrole parce qu'il est très bon marché.
La chimie qui
en et la chimie, beaucoup. La pétrochimie, bien entendu, le nylon, etc. Et puis le fait qu'effectivement c'est une source de d'énergie qui est extrêmement bon marché.
$2-3 le baril.
Oui,
hein,
absolument.
Ça fait rêver, c'est 60 aujourd'hui quasiment. En tout cas, un pétrole omniprésent et qui inspire cette chanson oubliée, beaucoup moins connue que celui qui la chante, Johnny Hallyday.
Oui, je voudrais bien voir la tête qu'on ferait s'il nous coupait le robinet. On se les gênerait sans le pétrole.
C'est un effet officiel depuis hier soir. Le pétrole sera utilisé comme arme de guerre par les pays arabes dans le conflit du Proche-Orient. Jean-Claude Mangeot.
Les pays du Golfe Persique ont décidé unilatéralement l'autre nuit à Koweït de relever les prix à la production de 17%. Par ailleurs, tous les pays arabes, à Koweït toujours, se sont mis d'accord, vous l'avez dit, pour limiter progressivement leur production à raison de 5% par mois, et cela jusqu'à ce qu'Israël évacue les territoires arabes occupés.
Oui, je voudrais bien voir la tête qu'on ferait s'il nous coupait le robinet. On se les gênerait sans le pétrole.
Et c'était Johnny Hallyday, une version courte, mais un disque assez long, en fait, qui est assez joli sur le pétrole. Vous la connaissiez,
Jean-Pierre
Morenon,
non,
hein. Ah, c'était une chanson assez marrante. On la trouve plus, elle n'a jamais été rééditée. Alors, on a entendu aussi, dans cette chanson, une archive d'octobre 1973, le premier choc pétrolier, l'utilisation du pétrole, on a entendu, comme une arme de guerre pendant la guerre du Kippour. Et là, pour la première fois, on voit les pays producteurs et exportateurs prendre en main, au fond, leur propre production. En tout cas, dominer le marché du pétrole, beaucoup plus que les compagnies jusque-là.
Oui, alors, il faut dire que c'était précédé par un certain nombre de nationalisations, comme celle d'ailleurs du pétrole algérien, irakien, etc. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays de l'OPEP, qui sont d'ailleurs des nouveaux venus à l'OPEP, et qui, comme la Libye aussi, qui en fait sont beaucoup plus virulents que les premiers dirigeants des pays de l'OPEP, qui étaient un petit peu timides vis-à-vis des grandes compagnies. Et là, d'un seul coup, ces jeunes loups vont ruer dans les brancards, et disons que la guerre du Kippour va être l'étincelle qui va effectivement faire exploser le prix du baril pour la première fois, et faire en sorte que la plupart des grands pays pétroliers du Sud vont prendre en main, disons, leur production pétrolière.
Et de manière spectaculaire, il y a un embargo sur les pays jugés trop proches de l'État d'Israël, et il y a une augmentation
faramineuse
du prix du pétrole. De combien à peu près, je crois que... Ça a décuplé, je crois, en l'espace d'un an.
Voilà, parce que ça a été en plusieurs étapes, et en fait, d'un seul coup, on a découvert que le pétrole, c'était quelque chose de très cher. Pour la première fois, on s'est posé des questions en allant faire le plein dans une station-service.
Parce que dans votre documentaire, il y a quand même une phrase qui m'a intrigué. C'est Nicolas Sarkis, qui était un conseiller de l'OPEP, et qui dit... Au fond, cette affaire d'embargo, d'augmentation unilatérale du prix du pétrole, c'était du cinéma. Pourquoi ?
Alors, ça, c'est une histoire un peu compliquée, mais enfin, pour la résumer, cette explosion, ce premier choc pétrolier, il correspond à un déclin, celui du pétrole américain. Il faut bien insister là-dessus, c'est que jusqu'aux années 70, les États-Unis étaient le plus grand producteur, le plus grand exportateur et le plus grand consommateur, d'ailleurs, de pétrole. Aujourd'hui, à partir des années 70, il est resté effectivement un très grand pays consommateur de pétrole, ça hélas, il reste des grands consommateurs, mais la production a commencé à décliner à cette époque-là. Et pour sauver, disons, leur industrie pétrolière, qui était en péril face à aux pays du Golfe, qui eux faisaient extrayaient du pétrole pour des prix défiant toute concurrence, ils ont été obligés de pousser en fait en sous-main ces pays. Pour que le pétrole augmente et que, de nouveau, l'industrie pétrolière américaine, intérieure, puisse continuer à être rentable.
Il y a aussi autre chose, Jean-Pierre Bourgneau, vous le rappelez, c'est que ce pétrole plus cher, ça rend rentable de nouveaux gisements qui n'étaient pas, et dont la prospection est évidemment encouragée. Je pense à l'Alaska, le pétrole en mer, tout ça, avec un pétrole à 2-3 dollars, ça ne pouvait pas fonctionner.
Et pour les Européens, c'est la mer du Nord. C'est le début, disons, de l'exploration. On savait qu'il y avait du pétrole dans la mer du Nord et du gaz, mais on pensait que c'était absolument pas rentable, parce qu'il fallait des installations offshore absolument délirantes. Et la France, d'ailleurs, a participé à cette exploration et à cette exploitation, Elf, entre autres. Et c'était, l'occasion de fabriquer des
plateformes. De multiplier, en fait, les réserves connues.
Qui étaient des espèces de chefs-d'œuvre d'ingénierie, d'ailleurs. Et ça a effectivement permis à l'Europe, de tenir le coup jusqu'à maintenant, période où on commence à constater un déclin, d'ailleurs.
Et à la France de se lancer dans une campagne d'économie d'énergie dont tout le monde se souvient.
Les économies d'énergie, pensez-y.
Quand vous restez en deuxième ou en troisième à haut régime, voici ce qui se passe. En passant tout de suite en quatrième ou en cinquième, vous allez aussi vite, en consommant moins et sans fatiguer votre moteur. Passez en quatrième ou en cinquième et économisez du carburant.
Moi aussi, chassez le gaspillage.
Et pourtant, c'est si simple d'économiser. Accélérer doucement, maintenir une vitesse constante, passer les vitesses en souplesse et éviter les freinages brutaux.
En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
Alors ça, c'est un slogan dont tout le monde se souvient, Jean-Pierre Bourgneau.
Même j'ai constaté des jeunes avec qui j'ai travaillé là, qui n'ont pas connu, n'étaient pas nés à l'époque de cette campagne publicitaire, enfin cette campagne, disons, d'économie, qui la connaissaient. Donc c'est quelque chose qui a été extraordinairement efficace. Il faut bien se dire que là, la France a fait effectivement cette campagne a très bien marché, et on pourrait peut-être en tirer des leçons pour aujourd'hui, d'ailleurs. Mais... je pense.
Oui, ben on y reviendra. Mais entre-temps, elle était d'autant plus utile cette campagne que il y a eu un autre choc pétrolier encore plus spectaculaire en 79, je crois, avec l'arrivée au pouvoir de Roménie en Iran.
Absolument, en Iran. En fait, il y a eu un mécanisme de grève générale
dans un très gros pays producteur.
Voilà. Et il faut dire que c'est à partir justement du premier choc, le marché a totalement été bouleversé, le marché pétrolier, il n'était plus contrôlé par les grandes compagnies, ça devenait un marché dit spot, c'est-à-dire que ça suivait les fluctuations quotidiennes de la bourse.
Et ça a atteint 80 dollars le baril.
Absolument.
Alors cela dit, les fluctuations, elles vont dans tous les sens, parce que le pétrole ne dépend plus ou dépend moins des grandes compagnies. Il dépend certes des pays producteurs, mais il dépend de la conjoncture. Parce qu'il y a une chose qui est très surprenante, qu'on a oubliée, parce qu'évidemment, à la pompe, les entreprises pétrolières ne répercutent pas les baisses de prix, mais il y a eu un effondrement des prix dans les années 80.
Total, qui a été
un contre-choc
qui a été d'ailleurs dramatique pour les pays producteurs de pétrole, parce qu'ils s'étaient lancés, on leur avait dit d'ailleurs, allez-y, en l'an 2000, et ça c'est les spécialistes qui les ont conseillés à cette époque-là, le pétrole sera à 100 dollars le baril. On leur a dit ça, en l'an 2000, le pétrole sera, ce qui n'a pas été le cas, non seulement ça, mais il y a eu surproduction. Les économies d'énergie des pays industriels, en particulier l'Europe, parce que les États-Unis, bon, c'est un peu moins, ont conduit effectivement à une surproduction qui fait que bah, dans un marché libre avec la concurrence, etc., bah, les prix s'effondrent automatiquement.
Et ils sont passés, je crois, à 10 dollars le baril en 86, ce qui a évidemment étranglé un certain nombre de pays producteurs de pétrole et poussé l'un d'entre eux, d'ailleurs, à tenter de mettre la main sur un des plus gros producteurs du Golfe, en poussant du même coup le président des États-Unis, George Bush Senior, à déclencher la première guerre du Golfe en 1991.
A attaqué ce matin le Koweït. Selon des sources diplomatiques, l'Irak a massé environ 100 000 hommes à la frontière et cette nuit, à 1h du matin, heure de Paris, a pénétré en territoire koweïtien.
I have therefore directed.
J'ai donc ordonné au général Schwarzkopf, en conjonction avec les forces de la coalition, d'utiliser toutes les forces possibles, y compris les forces terrestres, pour éjecter l'armée irakienne du Koweït.
L'offensive tempête du désert est lancée. Bagdad est bombardé toutes les 15 minutes. On parle d'un véritable tapis de bombes qui vise les cibles stratégiques de l'Irak.
Et c'était en 1991 la première des deux guerres du Golfe qui ont été, il faut bien le dire, des guerres du pétrole, Jean-Pierre.
Tout à fait. Et malgré les dénégations de beaucoup qui disent mais non, c'est pour instaurer la démocratie, etc. Bon, peut-être. Mais il est évident que les
Américains... Peut-être non, parce que priori, c'est pas vers la démocratie qu'on s'oriente en Irak. Il y avait aussi, pour la deuxième guerre du Golfe, il y avait aussi les armes de destruction massive dont on sait à quel point elles étaient dangereuses.
Ce qui est certain, c'est que les Américains ne voulaient pas s'emparer du pétrole d'Irak, mais ils voulaient contrôler le pétrole, et entre autres, pour en guise de rétorsion, à leur vieil ami devenu ennemi, l'Arabie Saoudite. Effectivement, contrôlant le pétrole irakien, ça leur permettait de freiner un petit peu, d'abaisser le caquet de l'Arabie Saoudite, donc coupable d'avoir effectivement généré en son sein Al-Qaïda, etc.
Enfin, tu aurais jamais eu de guerre du pétrole si ça s'était passé, enfin de guerre...
De guerre en Irak,
s'il n'y avait pas de pétrole.
Si leur richesse avait été les cacahuètes ou les tomates, évidemment.
Alors ça a aussi provoqué une importante flambée des prix à un moment donné. Mais celle-ci, elle paraît durable. Jean-Pierre Boccano, il y a une chose qui est quand même très impressionnante. Depuis quelques mois et même quelques années, on assiste à une augmentation systématique, importante, considérable du pétrole qui atteint maintenant les 60 dollars de baril et avec une baisse qui ne semble pas du tout envisagée cette fois-ci. À quoi tient cette augmentation importante du prix du pétrole?
Ben, je pense qu'il y a deux... Alors, il y a bien entendu, disons, une explication d'ordre psychologique, c'est qu'effectivement, c'est un marché... Il y a une espèce d'hystérie des prix. Hein. Ça, alors, il y a une grève au Venezuela, pof, d'un seul coup... Le prix du baril flambe. Il y a des amorces de guerre civile au Nigeria, ça flambe. Mais la raison la plus importante, c'est que des pays émergents extrêmement puissants, et en premier lieu la Chine, mais l'Inde essuie, et les pays du Sud-Est, qui deviennent des pays extrêmement énergivores, parce que d'un seul coup, il y a une explosion.
Parce que le vélo est remplacé par la voiture, etc.
On est en Chine à une situation qu'on avait prévue pour 2010. C'est-à-dire que
l'Asie, il faut le savoir, je l'ai lu quelque part, l'Asie est devenue la première région consommatrice du monde.
Absolument.
Devant les États-Unis, où là encore, on ne freine pas. Il n'y a pas eu de campagne anti-gaspillage aux États-Unis. Non. Il faut rappeler que l'essence est très bon marché. Son prix n'a pratiquement jamais été augmenté. Alors que les États-Unis sont devenus à la fois des gros producteurs. Ils ne sont plus les premiers, mais les plus gros importateurs de pétrole.
Absolument. Ouais. Leur importation ne cesse d'augmenter. Et leur consommation aussi.
Alors, il y a une chose aussi qui est importante et qui est assez inquiétante. D'ailleurs, vous le rappelez au début de chacun de vos quatre documentaires, Jean-Pierre Boccarno, vous dites que l'humanité, en 100 ans, a brûlé la moitié des réserves que la nature avait mis des millions d'années à produire, c'est-à-dire des réserves de pétrole. En fait, est-ce qu'on peut mesurer ce qui reste? Parce que là, c'est évidemment une angoisse, encore qu'on ne semble pas tellement angoissé en haut lieu, mais c'est quand même terrible. On se dit, dans combien de temps? Déjà en 73, il faut le rappeler, on avait dit, il y aura plus de pétrole dans 10 ans. Bon, nous sommes quand même 30 ans après, mais maintenant.
Les prévisions, effectivement, les prévisionnistes se sont très souvent trompés. On était très pessimiste, disons. Aujourd'hui, il y a de bonnes raisons de penser que, hélas, les prévisions les plus pessimistes, celles qui disent le déclin va commencer dans 20 ou 30 ans, sont certainement plus près de la vérité que ceux qui disent, ben, vous en faites pas, il y aura encore du pétrole longtemps, etc. Il y aura toujours un peu de pétrole. Le problème, c'est le problème du déclin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, le déclin s'amorce, pour des raisons géologiques, parce qu'on trouve plus assez de pétrole, ça y est, on rentre dans un cycle de flambée qui n'est pas lié à des problèmes géopolitiques ou autres. Non, c'est simplement un problème d'une ressource qui est en voie d'épuisement. Et ce que disent ces gens-là, enfin, qui sont des géologues, qui sont des types des spécialistes, c'est qu'on depuis longtemps, on ne trouve plus ce qu'on appelait les gisements géants, c'est-à-dire les gisements énormes qu'on a trouvé dans la Caspienne, qu'on a trouvé en Arabie Saoudite, par exemple, comme le Gawa, etc., qui ont été très longtemps des sources majeures, disons, d'approvisionnement.
Oui, mais alors, une question évidente, Jean-Pierre Borenon, je vous appelais Bob Bocardo, c'est Jean-Pierre Borenon, une raison évidente, une question évidente, par quoi peut-on le remplacer? Et est-ce qu'on peut le remplacer? Parce qu'après alors, tout, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une voiture à part de l'essence?
Bien entendu, toutes les inventions les plus fantaisistes ont été lancées. Alors effectivement, il y a une recherche très sérieuse. Par exemple, le moteur à hydrogène, on en a beaucoup parlé. Bon, tous les pétroles de synthèse, disons, faits avec les végétaux, etc. Bon, même le charbon, hein, on peut faire du comme les Allemands l'ont fait pendant la guerre. Donc tout ça, c'est à la recherche. Mais le moteur électrique, bon, mais on n'a pas encore trouvé la solution miracle. Ça, c'est certain. Et ce que disent tous les spécialistes, c'est qu'effectivement, il ne faut pas s'attendre à une solution miracle. Il n'y aura pas de miracle. À un moment donné, on va trouver les moteurs mixtes, etc. Et il ne faut pas s'attendre à ce qui est. Il faut s'attendre à effectivement des économies rigoureuses pour faire face à ces.
Et même dit-on, le nucléaire, l'électricité nucléaire, qui prendra plus de place, comme c'est le cas en France.
Bien entendu. Alors ça, les ennemis. Bien entendu, on se fait des ennemis.
En deux mots. Il reste très peu de temps, oui.
On se fait des ennemis en disant, mais le nucléaire, c'est incontournable, certainement, pour les décennies à venir.
Hélas, bon. Jean-Pierre Borenon, en tout cas, merci. Je rappelle donc que vous avez écrit et réalisé avec Yves Billon L'épopée de l'or noir, une série documentaire en 4 épisodes sur l'histoire du pétrole, une production de la chaîne Histoire et Les fines grains de sable, dont vous avez pu entendre des extraits et qui a été récemment diffusée sur la chaîne Histoire. À lire également Les enjeux de l'énergie, pétrole, nucléaire et après de Ludovic Mons, un petit livre très complet qui vient de paraître aux éditions Larousse dans la collection Petite Encyclopédie. Vous avez pu entendre un extrait du téléfilm Ford d'Alan Eastman, une production Filmline International. Ces références sont disponibles au 32 30, 34 centimes la minute ou sur France Inter.